Chapitre 14. Nos deux enquêteurs clandestins s'éloignent rapidement et vont s'accroupir derrière un gros buisson. Là, un peu plus tranquilles pour leur sécurité, ils font le point.
« Moi, ça me paraît assez louche, cette livraison en pleine nuit et l'histoire de la caverne d'Ali Baba, » déclare Anne.
« C'est drôle, j'ai réagi comme toi. C'est quand il a parlé d'Ali Baba que je me suis dit « Nous sommes dans un repère de voleurs. » Ça explique tous ces meubles démontés. Ils doivent les maquiller, les modifier et pourquoi pas les mélanger pour les rendre méconnaissables et pouvoir les revendre sans risque qu'ils soient reconnus de leurs propriétaires.
Peut-être nous en savons assez pour alerter la police. Pas besoin de prendre plus de risques pour visiter la maison d'Antoine,
dit Anne, qui pense qu'ils ont déjà pris pas mal de risques pour en arriver là.
Tu as un peu raison, mais nous ne sommes pas venus pour faire coffrer des voleurs de meubles, mais pour trouver des indices sur le meurtre du père Perrier. Et là-dessus, pour le moment, on n'a toujours rien.
Alors on continue à jouer les apprentis cambrioleurs et on visite la maison ?
Oui, mais j'ai peur que ce ne soit pas aussi simple. Je suis presque sûre qu'il y a une alarme. Comme je n'ai aucun élément qui me permettrait de la neutraliser, nous allons la déclencher et faire tourner en bourrique ce pauvre Gilles jusqu'à ce qu'il la débranche. Ce ne sera pas très sympa, mais je ne vois pas d'autre moyen.
Tiem prend alors le temps d'exposer à Marianne, au téléphone, tout ce qu'ils ont vu, leurs conclusions et leurs plans de bataille pour la suite. Ainsi, s'ils se font prendre, Marianne aura un maximum de détails à donner à la police lorsqu'elle la préviendra. Ils sortent de leur cachette et s'approchent de l'arrière de la maison. Pierre choisit la fenêtre la plus éloignée, celle qui est aussi la plus proche de la grande haie et des buissons qui occupent le fond du terrain. C'est une grande fenêtre très haute, protégée par des volets à lattes que l'âge a rendu un peu branlant. Une fois devant, il repère vite que ses volets sont maintenus fermés par deux grands crochets à l'intérieur. À l'aide d'un fil de fer qu'il sort de sa poche, il réussit assez facilement à relever l'un des crochets et à ouvrir le volet. Il monte alors sur l'appui de la fenêtre et, à l'aide de sa lampe de poche, il tente de repérer ce qui peut déclencher le système d'alarme. Il y a un petit rectangle blanc tout en haut sur le montant central, entre les deux vantaux. C'est un système tout simple, ancien et bien connu. Sur un ventail est fixé un aimant, sur l'autre, juste en face, un contact. Si l'aimant s'écarte du contact, par exemple quand on ouvre la fenêtre, le contact bascule et l'alarme est déclenchée. Piem repère aussi que, comme c'est souvent le cas pour ces grandes fenêtres anciennes, la crémone n'accroche plus en haut. Il suffit donc d'exercer une forte poussée en haut de fenêtre pour que les vantaux s'écartent légèrement. L'aimant s'éloigne du contact et l'alarme se déclenche. Aussitôt, une puissante sirène se met à hurler. Piem saute à terre, repousse le volet pour qu'on ne remarque pas qu'il a été ouvert et, prenant Anne par la main, il entraîne en courant jusqu'au buisson où ils étaient précédemment cachés. C'est un lieu stratégique. Sur leur gauche, ils ont l'angle de la maison dont ils voient parfaitement les deux faces. En face d'eux, ils ont une vue bien dégagée sur l'enfilade du chemin jusqu'à la grille. Ils aperçoivent même le toit de la fourgonnette. Ils peuvent donc voir le gardien sortir du bâtiment où il doit dormir, traverser le chemin et entrer dans la maison. Enfin, en cas de problème, il leur est facile de reculer de buisson en buisson, voire de s'échapper en sautant un mur de clôture.
« Regarde !» chuchote Anne.
En effet, Gilles vient de sortir par la petite porte du bureau. Il devait être au lit, car il a l'air à peine habillé et tient son pantalon d'une main. Il vient vers eux en trottinant, vérifiant une à une les ouvertures de la maison avec une grosse lampe torche. En arrivant à l'arrière, il éclaire successivement tous les volets du rez-de-chaussée, y compris celui que Piem a ouvert et refermé. Ne voyant rien d'anormal, il fait demi-tour et court vérifier la façade avant.
« Mon pauvre vieux, tu n'as pas fini de courir ce soir !» chuchote Piem.
Une minute plus tard, Gilles revient de sa ronde, toujours en courant, ouvre la porte de la maison à l'aide d'un gros trousseau de clés et file à l'intérieur arrêter cette sirène qui hurle toujours à vriller les tympans de tout le voisinage. Quand la sirène se tait enfin, Piem donne quelques indications par téléphone à Marianne pour la rassurer et la tenir au courant. Le gardien tardant à ressortir, Anne demande « Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans ?» Il doit faire le tour pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'effraction. « J'espère qu'il ne va pas lui prendre l'idée de dormir là !» Pour le coup, on serait coincé, mais ça m'étonnerait beaucoup. Antoine préfère sûrement rester seul maître chez lui. Effectivement, quelques minutes plus tard, il voit Gilles ressortir, refermer la porte à clé, traverser le chemin et rentrer se coucher. « On va lui laisser le temps de se recoucher tranquillement, » dit Piem. Ils attendent une dizaine de minutes, puis se relèvent tous les deux. « Non, » dit Piem, « il vaut mieux que j'y aille seul. L'ami Gilles risque d'apparaître beaucoup plus vite que la première fois, et je n'aurai sans doute pas le temps de revenir jusqu'ici. Je me cacherai dans la haie, juste à côté de la fenêtre. Toi, tu surveilleras ses allées et venues, et tu me signaleras quand il sera rentré chez lui. Tu n'auras qu'à me jeter des petits cailloux, ça ne fait presque pas de bruit, je comprendrai que la voie est à nouveau libre. » Piem traverse donc l'espace découvert jusqu'à la fenêtre, rouvre le volet et, grimpant sur l'appui, déclenche l'alarme en forçant sur le haut des fenêtres. Sautant à terre, il remet le volet en place et court se jeter dans la haie. Ses prévisions sont justes. Il n'y a pas 10 secondes que la sirène s'est remise à hurler que le gardien surgit. Comme la première fois, il fait d'abord le tour de la maison avec sa lampe torche, puis entre arrêter la sirène. En ressortant, il fait un tour à l'extérieur. Anne le voit téléphoner avec un portable. Il traîne encore un peu dehors, puis finit par rentrer chez lui. Anne se redresse derrière son buisson et lance des graviers en direction de Piem qui vient la rejoindre. Le prochain coup, il risque de sortir encore plus vite. Ce serait bien d'attendre un peu plus longtemps, mettons une demi-heure, pour que ce ne soit pas trop régulier. Il faut qu'ils finissent par croire à une panne du système. Bien que le froid les engourdisse un peu, ils s'astreignent à attendre une demi-heure, puis Piem recommence son manège et déclenche à nouveau l'alarme. Le gardien a toujours la même réaction et fait ses vérifications toujours dans le même ordre, comme s'il s'agissait d'une consigne apprise par cœur. Une quatrième fois, sans attendre cette fois-ci, Piem redéclenche la sirène. Et Gilles, à peine rentré, doit ressortir et recommencer son numéro. Dès que la sirène s'arrête, Anne entend des cris venir de la grille. Gilles hésite, puis s'y dirige. Anne, pensant qu'il n'y a plus trop de danger, fait signe à Piem de venir la rejoindre. Sitôt arrivé, Piem, en se mettant debout, constate qu'un groupe de personnes discute vers la grille. Il appelle Marianne, qui, toujours planquée dans la fourgonnette, est aux premières loges.
« C'est les voisins, » répond-elle. « Ils ne supportent plus cette sirène qui les empêche de dormir. Je ne saisis pas exactement ce qu'ils disent, mais ça doit être, si cette foutue sirène se déclenche encore une fois, on appelle les flics. »
« C'est parfait, » conclut Piem. « C'est exactement ce que j'attendais. On va enfin pouvoir entrer et visiter cette maison. » Gilles revient de la grille en parlant au téléphone. De sa main libre, il fait de grands gestes. Visiblement, il est un peu débordé par la situation.
Il doit demander des instructions à son patron, commente Anne.
Il reste à espérer que le patron ne va pas lui ordonner de camper devant la porte.
Il reste à espérer surtout que le patron ne va pas se pointer en personne. Nous aurions plus de mal à le berner, d'autant plus que lui, il doit dormir dans la maison.
Heureusement, Marianne veille. Si la BNW arrive, nous serons prévenus à temps. Antoine devra s'arrêter pour ouvrir la grille ou appeler Gilles pour qu'il le fasse. Nous serons immédiatement prévenus et nous aurons le temps de disparaître. En attendant, Gilles ne se presse pas pour entrer se coucher. Il fait de nouveau un tour complet de la maison, balayant minutieusement toutes les ouvertures de sa lampe torche. Pourtant, au bout d'un quart d'heure, il finit par disparaître dans sa chambre.
« Il ne va sûrement pas se coucher tout de suite, » murmure Anne.
« Il se pourrait même qu'il ressorte faire un tour d'ici quelques minutes. Attendons un peu. » Mais au bout de 20 minutes d'attente, il ne s'est rien passé. Piem et Anne sentent le froid les pénétrer et les engourdir. Il faut faire quelque chose. Piem se lève et, pour la cinquième fois, va secouer la fenêtre pour déclencher l'alarme. Rien ne se passe. L'alarme n'a pas été remise en service. Il leur faut maintenant trouver un moyen pour pénétrer dans la maison. Bien sûr, le plus simple serait de casser un carreau à cette même fenêtre, mais il répugne à Piem d'entrer par effraction et de laisser des traces évidentes de leur passage. La fenêtre n'étant tenue fermée que par le bas, Piem allume brièvement sa lampe pour voir ce qu'il pourrait tenter pour faire lâcher le dernier crochet. La lumière lui montre le très mauvais état de l'appui de la fenêtre dont les décennies d'intempéries ont fini par faire pourrir le bois. Il se dit qu'en poussant suffisamment fort, ce bois devrait céder assez facilement. Écartant les jambes pour être bien stable sur le sol, Piem s'arc-boute et pousse de toutes ses forces sur la fenêtre, juste derrière la crémone, au point le plus bas. Rien ne bouge. Il rassemble son énergie et fait une deuxième tentative, mais sans plus de succès. Il songe alors qu'il lui faut trouver un moyen d'exercer plus de force. Où va-t-il trouver un morceau de fer pour faire levier? Il regarde autour de lui, mais rien ne traîne. Il revient vers Anne en réfléchissant. Il est sûr d'avoir vu quelque part quelque chose dans le genre de ce qu'il cherche, mais il ne peut se souvenir ni quoi ni où. « Tu ne te rappelles pas avoir vu traîner des outils quelque part ?» demande-t-il à Anne. « Bien sûr, dans l'atelier de menuiserie. »« Oui, c'est sûr, mais ça ne me tente pas trop d'y retourner. Avec l'autre qui doit être sur ses gardes juste derrière la porte. Non, je parle d'outils de jardin. » « Eh bien, contre le mur, juste devant toi, il y a une pelle, une pioche et un râteau. »« Mais oui, bien sûr, je savais bien que j'avais vu ça, mais impossible de me rappeler où. »« Comme ça, j'ai l'impression de servir à quelque chose. »« Merci, Anne, » murmure Piem. Il se saisit de la pioche, l'emporte vers la fenêtre qu'il veut ouvrir et, s'en servant comme levier, il arrache sans effort le crochet qui tenait encore comme il pouvait dans le bois pourri. La fenêtre s'ouvre en grand, il se penche pour examiner les dégâts qu'il vient de causer. La ferrure s'est arrachée en emportant très peu de bois. Une fois la fenêtre repoussée, il faudra l'examiner de très près pour déceler les fractions. « C'est parfait !» se dit-il. Il ramasse les débris de bois pourri, reporte la pioche où il l'a prise et fait signe à Anne de le suivre. Tous deux pénètrent dans la maison d'Antoine en escaladant cette fenêtre. Ils referment les volets et repoussent la fenêtre derrière eux. « Tu as raison, » dit Anne qui allume sa lampe et s'intéresse aux traces de leur passage. « Difficile de voir que cette fenêtre a été fracturée. » Au cas où nous serions surpris, il vaut toujours mieux tout prévoir. C'est par ici qu'il faudra essayer de filer. Une fois dehors, trois ou quatre pas, et on disparaît dans la végétation. Anne, en filtrant la lumière de sa lampe, fait le tour de la pièce. Il s'agit d'une salle à manger bien meublée, mais qui ne doit pas servir souvent. Une bonne couche de poussière recouvre tout. La table, les chaises, le buffet, et même, ce qui est plus gênant, le sol carrelé. Ils laissent sur le sol la trace précise de leurs pas. Anne tente de les effacer en frottant le sol avec ses pieds. Tant qu'elle laisse des traces, autant qu'elles soient brouillées. Pas la peine qu'on puisse, derrière eux, deviner combien ils sont, deviner qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Ils sortent de la salle à manger, referment soigneusement la porte et se trouvent dans un large couloir. Anne commence à se sentir nettement moins à l'aise. Tant qu'ils étaient dans la salle à manger, elle pouvait garder un œil sur l'issue de secours. S'ils avaient été dérangés, ils n'auraient guère mis plus de quelques secondes pour franchir la fenêtre et sauter dans le parc. Mais à mesure qu'ils pénètrent plus avant dans la maison, leurs chances de pouvoir s'échapper diminuent rapidement. Anne n'est plus très rassurée, elle a la désagréable impression de s'engager toujours plus en avant dans la gueule du loup. Pourtant, elle n'ose avouer à Piem ce qu'elle ressent. Lui semble très calme, déterminé. Il lui confie. « Ce que nous cherchons, c'est un bureau, le bureau personnel d'Antoine. Pas la peine de traîner dans les autres pièces, surtout celles qui sont visiblement inhabitées. Ils font ainsi le tour de tout le rez-de-chaussée. Ils visitent une succession de pièces poussiéreuses qui ne doivent pas recevoir souvent du monde. Le tour achevé, ils se retrouvent dans le vestibule.
« Ça paraît clair, » conclut Piem. « Monsieur a ses appartements à l'étage. Montons. »
Anne devine le grand escalier tout sombre en face d'eux, et elle n'est pas du tout rassurée.
Si le gardien vient faire une ronde, il verra les traces laissées au sol et il fouillera la maison pour nous retrouver. Une fois à l'étage, ce sera impossible de lui échapper. Sauter par les fenêtres serait du suicide, vu le saut à faire pour rejoindre le parc. Se cacher serait sans doute inutile, car il connaît la maison bien mieux que nous, et bien sûr, il ne nous laissera pas redescendre l'escalier, sachant que c'est la seule issue praticable. »
Au moment de monter l'escalier, Piem ressent l'hésitation d'Anne.
« Si tu préfères, je monte seule et tu restes ici à faire le guet. »
Anne réfléchit 2 secondes.
« Si je reste au rez-de-chaussée, est-ce que je permets à Piem d'être plus en sécurité ?»«
Non, je ne vois pas en quoi. Faire le guet ici ne servirait à rien. Alors autant l'aider à en finir plus vite. »«
Je viens avec toi, » décide-t-elle en faisant un gros effort pour refouler son angoisse.
Ils montent le grand escalier de pierre, recouvert d'un tapis rouge très usé. À l'étage, un couloir en vieux parquet ciré distribue les différentes pièces. Piem note au passage que l'escalier continue de monter vers l'étage suivant.
Ici, le sol n'est pas couvert de poussière, le ménage doit être fait plus souvent. Ils ouvrent la porte en face de l'escalier et entrent dans une bibliothèque. C'est une très belle pièce, mais elle ne doit pas servir trop souvent, car il n'y traîne aucun objet d'usage courant.
La pièce d'à côté est bien plus intéressante. C'est le bureau d'Antoine, la pièce qu'il recherche. Comme la bibliothèque, c'est une belle pièce, éclairée par des fenêtres sur 2 côtés. Quelques beaux meubles en composent le décor. Au centre trône un énorme bureau de ministre, flanqué de 2 classeurs métalliques pour dossiers suspendus.
Anne et Piem font le tour, puis s'intéressent aux papiers qui traînent sur le bureau et autour de l'ordinateur, qui occupe une bonne place avec son énorme écran.
Tout à coup, Anne pose sa main sur le bras de Piem.
« Tu as entendu ?» chuchote-t-elle.
« Oui, un bruit, en bas. »
Ils restent en silence, sans bouger, les oreilles grandes ouvertes, pendant un certain temps. Ils n'entendent rien.
Sans doute un meuble ou une poutre qui craque. Ça doit arriver tout le temps dans ces vieilles baraques, conclut Piem qui se remet à fouiller le bureau.
Anne n'est pas aussi rassurée. Elle prend le téléphone portable de Piem et contacte Marianne.
Tu n'as rien vu de suspect ?
Non, rien, tout est noir. Et c'est terrible. Mais malgré le café, j'ai une énorme envie de dormir. Vous vous en sortez ?
Oui, oui, on est dans le bureau d'Antoine à l'étage. On finit la visite et on file te rejoindre. À tout de suite.
Piem ouvre un par un les différents tiroirs du bureau.
Regarde, dit-il tout à coup à Anne.
Au fond d'un tiroir, sous un chiffon, brille un pistolet automatique.
Voilà qui prouve que monsieur ne doit pas avoir la conscience tout à fait tranquille.
En se penchant pour voir l'arme, Anne remarque une corbeille à papier glissée sous le bureau. Elle la tire à elle pour en examiner le contenu. Elle se rappelle avoir lu dans un roman policier que le contenu des corbeilles est toujours très instructif. D'ailleurs, quand les 2 inspecteurs sont venus lui rendre cette horrible visite chez elle, ils n'ont pas hésité à vider sa corbeille sur la table pour en vérifier le contenu. Elle soulève 2 ou 3 publicités à peine ouvertes et ce qu'elle découvre dessous lui donne une forte émotion. Elle n'ose y croire.
« Regarde !» dit-elle à Piem. « Les pochettes noires contenant les billets du père Perrier. Il y en a 2, vides bien sûr, ouvertes à coups de ciseaux. »
À ce moment, ils entendent un nouveau bruit beaucoup plus proche, sans doute dans le couloir à côté. Ils se relèvent et voient avec stupeur la porte s'ouvrir. Immédiatement, la lumière jaillit du plafonnier. 2 hommes entrent dans la pièce. Le premier, très jeune, toujours en costume, est Antoine Perrier. Le second est Gilles. Il tient un solide gourdin dans sa main droite.
Anne et Piem sont paralysés de stupeur.
Comment ont-ils pu se faire surprendre ainsi? Pourquoi Marianne n'a-t-elle pas donné l'alerte en voyant rentrer Antoine?
Mais ils n'ont pas le temps de chercher des réponses à ces questions. Antoine repère tout de suite les pochettes noires dans les mains d'Anne. Il comprend aussitôt qu'il n'a pas affaire à de simples voleurs et que ses visiteurs clandestins ont un but précis qu'il imagine trop bien. Furieusement, il aboie.
« Qu'est-ce que vous foutez là, à fouiller dans mes affaires comme de sales espions ? Pas mal le coup de l'alarme qui se déclenche toute seule, mais vous ne croyez pas que j'allais gober une histoire pareille sans venir vérifier ?»
Anne est livide. Ils restent là, tous les quatre, à s'observer en silence. En fait, Antoine et Piem réfléchissent à toute vitesse, chacun de leur côté, pour trouver comment se sortir de cette mauvaise posture. Antoine se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de ces deux prisonniers. Appeler la police, ces deux voleurs seraient sûrement embarqués, mais ils parleraient, ne serait-ce que pour se défendre. Les relâcher, impossible, ils s'empresseraient d'aller tout raconter, et ils en savent visiblement beaucoup trop, même s'ils n'ont que des soupçons. Les garder enfermés, on s'inquiéterait vite de leur absence. Piem, de son côté, réfléchit aussi. Ils se sont fait piéger bêtement, mais il y a sûrement moyen de s'en sortir. La sortie est bloquée, la fuite est impossible, que peuvent-ils faire? Une idée lui vient. En agissant très vite, avec beaucoup de culot, il peut encore retourner la situation. Sans crier gare, il se précipite sur le bureau juste devant lui, il ouvre le tiroir où il s'est trouvé le pistolet automatique, il dégage le chiffon qui le cache et se saisit de l'arme. Mais il n'a pas le temps de la braquer sur les nouveaux venus. Antoine a tout de suite compris ce que Piem cherchait dans le bureau. D'un geste, il récupère le gourdin de la main de Gilles et se précipite sur Piem. Anne crie pour le prévenir. Par réflexe, Piem baisse la tête, mais le coup asséné à toute volée l'atteint à l'épaule. Il s'écroule sans connaissance sur le sol. Antoine ramasse immédiatement l'arme et la braque sur Anne qui se baisse pour porter secours à Piem.
« Ça suffit, ces conneries! Va te mettre contre le mur, les mains sur la tête !»
Ne pouvant rien faire d'autre, Anne obtempère et recule contre le mur le plus lentement possible. Elle est atterrée. Cette histoire, qui a gentiment commencé comme un jeu scout, est en train de se terminer en véritable cauchemar. Piem n'est-il qu'évanoui? Le coup a-t-il pu le tuer? On ne peut pas le laisser comme ça, il a sûrement besoin de soins. Et elle ne peut absolument rien faire. C'est elle qui l'a entraîné dans cette histoire, ce sera de sa faute si Piem meurt ou s'il reste paralysé. Cet Antoine est donc un monstre et elle une parfaite inconsciente de s'être lancée sur la piste d'un criminel. Gilles est toujours debout à la porte. Il reste là, l'air bête, ne sachant que faire de ses mains et de sa personne. Antoine, lui, est fou furieux. Il comprend qu'il est grillé et que tous ses plans sont à l'eau. S'il n'a en face de lui que deux détectives amateurs, la police ne va sûrement pas tarder. Il comprend qu'il ne lui reste plus que la fuite.
« Vous êtes vraiment des emmerdeurs » crie-t-il à Anne, « mais tu vas me le payer !»
Il se retourne vers Gilles.
« Va me chercher mon gros sac de voyage dans le placard de ma chambre !»
Gilles sort. Tout en surveillant avec la plus grande méfiance le moindre mouvement d'Anne, il contourne le bureau, s'approche de la cheminée, passe la main dedans et déclenche un mécanisme qui fait s'ouvrir un panneau de bois sous la simèse. La porte d'un coffre scellé dans le mur apparaît. Gilles revient avec le gros sac qu'il dépose devant son patron.
« Bon, surveillez la fille 2 minutes. Fais gaffe, elle est capable de tout. »
Gilles ramasse son gourdin et se tient prudemment à 3 mètres d'Anne. Antoine sort du coffre un certain nombre de pochettes en plastique noir qu'il jette dans le sac. Enfin, il le referme, se relève et, braquant de nouveau son arme sur Anne, il lui annonce
« Tu t'es cru plus maligne que moi avec ton copain, tant pis pour toi. Tu vas me servir d'otage et m'aider à disparaître avant que les flics ne me filent le train. Attention, j'ai déjà 2 cadavres sur les bras, alors 1 de plus, 1 de moins. T'as drôlement intérêt à te tenir tranquille. » « Gilles, porte-moi le sac dans le coffre de la voiture. »
Gilles, visiblement apeuré par la colère de son patron, s'applique à lui obéir au doigt et à l'œil.
Il s'empare du sac et disparaît par la porte. Anne est loin d'être rassurée. Elle sait qu'elle ne peut rien faire pour le moment. Elle pense à Marianne. Que lui est-il arrivé? Pourquoi n'a-t-elle pas prévenu? A-t-elle été découverte et éliminée? Fait-elle partie des deux cadavres avoués par Antoine? Mais celui-ci ne lui laisse pas le temps de réfléchir davantage. Il lui fait signe d'avancer à son tour. Passe devant, et je ne te conseille pas de tenter quoi que ce soit. Ça part très vite, ces engins-là. Et ne crois surtout pas que j'hésiterai. Anne s'avance vers la porte et jette un dernier coup d'œil à Piem, qui n'a pas plus bougé comme mort depuis le coup qu'il a reçu. Elle a l'horrible impression de l'abandonner. Elle franchit la porte, Antoine à deux pas derrière elle. Curieusement, elle sent qu'elle n'a plus peur. Une froide détermination s'empare d'elle. Elle se dit qu'elle n'a plus rien à perdre. À la première occasion, au premier signe de faiblesse du bandit, elle tentera sa chance, quitte à prendre tous les risques. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fera l'impossible pour le faire prendre et l'empêcher de s'enfuir impunément. Elle sort de la maison par la porte qui donne sur le chemin. Une lampe est allumée contre la façade. Si Marianne est toujours à son poste, elle ne peut pas ne pas la voir sortir, suivie du bandit. Et alors, la police va être immédiatement prévenue. En bas des quelques marches, elle se tourne vers la gauche pour rejoindre la grille. « Non, à droite !» entend-elle dans son dos. Elle se retourne et s'avance donc vers le fond du jardin, passe devant la cachette d'où elle surveillait le chemin il y a encore une demi-heure, et, pressée par Antoine, elle prend un minuscule sentier qui s'éloigne au milieu des taillis. Elle arrive ainsi à un portillon tout au bout du terrain. Il y a là une petite rue et la BMW stationnée juste devant. Anne comprend. Si Antoine est arrivé par cette petite rue, il a déjoué la surveillance de Marianne. Mais cela veut dire aussi que Marianne est toujours à son poste et qu'elle m'a vu sortir prisonnière de la maison. Cela signifie aussi que la police doit être déjà prévenue et qu'elle ne va pas tarder à arriver. Gilles est debout devant le coffre où il a dû mettre le sac de voyage contenant l'argent. Il attend les ordres de son patron. Antoine fait monter Anne à l'avant, sur le siège de droite, sans cesser de la tenir en respect avec son arme. À ce moment, on entend une sirène de police qui se rapproche. Anne ne peut s'empêcher de sourire et Antoine fait la grimace. « Salope ! Ne rigole pas trop vite ! Ils ne nous ont pas encore !» La sirène s'est arrêtée pas très loin. On entend des cris. On devine que la voiture de police doit être stationnée devant la grille, à l'autre bout de la propriété. En accélérant le rythme, Antoine fait le tour de la voiture et monte à son tour au volant. Gilles lui demande « Je monte à l'arrière ?»« Pas question, tu te démerdes !» Et il démarre sur les chapeaux de roue, laissant Gilles tout penaud sur le trottoir. Il file par des petites rues. Il roule vite, mais sans excès pour ne pas se faire remarquer. Il tourne à droite ou à gauche régulièrement pour changer d'itinéraire et dérouter d'éventuels poursuivants. Il a posé son arme sur sa cuisse gauche et montre à Anne qu'il ne lui faut qu'une demi-seconde pour la saisir. Ils font un premier arrêt à un feu rouge. Déjà, Anne se prépare à sauter. Elle sait que lorsque la voiture repartira, le conducteur aura besoin de ses deux mains. Une pour tourner le volant, car il a mis son clignotant vers la droite, et une pour passer les vitesses. Mais Antoine doit pressentir l'intention d'Anne, car il saisit son pistolet de la main gauche et manœuvre le volant de deux doigts sans lâcher l'arme. « Je t'ai prévenu, au premier geste, je te descends !» Antoine est très tendu. Non seulement il a la police aux trousses et il ne comprend pas pourquoi ils sont intervenus si vite. Mais il sent bien que son otage, sa principale garantie, loin d'être soumise et apeurée par la présence d'une arme, a tout d'une tête brûlée et qu'elle est prête à saisir la première occasion de lui fausser compagnie. Ils passent ainsi deux ou trois carrefours sans qu'aucune voiture suiveuse n'apparaisse dans le rétroviseur, puis ils sortent de la ville et la voiture prend rapidement de la vitesse. Anne, qui guette toujours la bonne occasion, se sent un peu déçue. Elle a lu quelque part que dans ce genre de situation, la première occasion est toujours la meilleure. Elle se demande si elle ne l'a pas déjà laissé passer. En bas d'une longue descente, à la sortie d'un hameau, elle voit une camionnette de gendarmerie garée sur l'accotement, à droite de la route. Anne comprend qu'il lui faut saisir sa chance. C'est maintenant ou jamais. Mais Antoine devine ses intentions et prévient sa passagère. Il saisit le pistolet qu'il garde à plat sur ses genoux et, la menaçant, il lui dit « Tu as intérêt à te tenir tranquille !» Mais Anne se dit qu'Antoine ne peut pas utiliser son arme à proximité des gendarmes. Il prendrait immédiatement en chasse une voiture à l'intérieur de laquelle on entend des coups de feu. Elle se recule au maximum dans son fauteuil et se concentre quelques secondes. Quand la voiture dépasse juste la camionnette, d'un mouvement brusque du bras droit, elle saisit le haut du volant et le tire violemment vers elle. Antoine n'a pas le temps de réagir. La voiture se met en travers, dérape et part en tonneau sous le nez des gendarmes. Elle fait 2 tours et demi et finit par s'immobiliser sur le toit contre le talus. Anne a conscience d'entendre des bruits terribles éclater dans ses oreilles. Elle se fait violemment chahuter en tous sens. Quand tout se calme, elle est presque surprise de se sentir en vie. Complètement sonnée, elle ne pense même pas à se tourner vers le conducteur pour voir son état, mais, entendant des voix s'approcher, elle rassemble les forces qui lui restent et crie « Attention, il est armé !» Puis elle sombre dans l'inconscience.